Omar Badour, vous êtes le coordinateur du rapport et selon ce nouveau rapport multi-agence coordonné par l'OMM, le changement climatique menace de plus en plus la santé humaine, la sécurité alimentaire, le développement socio-économique de l'Afrique. Quelles sont les grandes lignes de ce document?
Les points saillants de ce rapport, donc ici pour les températures, on ne découvre pas grand-chose par rapport à ce qui se passe au niveau global, sauf qu'au niveau des continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, on note une accentuation du réchauffement si on compare avec la moyenne globale. Par exemple, nous avons calculé le taux de réchauffement durant les 30 dernières années moyenné par décennie. Et on a trouvé que, par exemple, l'Afrique se réchauffe à un taux de 0,4 degrés centigrades par décennie. Donc, si vous extrapolez ça sur le siècle, c'est 4 degrés par siècle. Si vous comparez ça avec le taux de réchauffement actuel au niveau global, c'est deux fois plus accentué. Ceci, donc, bien sûr, s'est traduit au niveau de 2019, qui était l'une des trois années les plus chaudes, et que, donc, en ce qui concerne d'autres indicateurs qui sont toujours liés au réchauffement, par exemple l'élévation du niveau de mer, on trouve que pratiquement toutes les eaux qui juxtaposent le continent africain connaissent une accélération du niveau de mer. Ceci est particulièrement prononcé au niveau des eaux de l'océan Indien Ouest, qui couvre donc les pays du Madagascar, Maurice, Comores et les côtes du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Ceci a été donc analysé. On a trouvé environ une moyenne de 5 mm d'augmentation par an sur cette région-là. Et si vous comparez avec la moyenne d'élévation des océans au niveau global, donc c'est presque 1 mm ou 2 mm de plus sur cette région-là. La question maintenant qui se pose, quel serait l'impact de cette élévation sur cette région? Bien entendu, il y aura toujours l'érosion des côtes, mais ce qui est très important, si on combine cette élévation du niveau de mer avec la tendance à la hausse des activités de tempêtes et de cyclones sur cette région-là, on voit très bien qu'on a ici un grand risque d'augmentation des impacts de ces cyclones tropicaux, parce qu'on sait que l'élévation des niveaux de mer associée avec des cyclones qui frappent de pas une fois sur l'autre, et donc l'impact sur les côtes il est beaucoup plus marqué que lorsque le niveau de mer n'est pas aussi accentué.
Mais quand le rapport fait état de risques devenant plus graves, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant?
Les risques plus graves, parce qu'il y a un facteur de multiplication. Vous avez d'une part les événements extrêmes qui s'accentuent, mais également les niveaux de mer qui s'élèvent. Donc, il y a ici un facteur de multiplication qui fait qu'un cyclone tropical qui frappe, par exemple, les côtes est de l'Afrique, il est beaucoup plus dangereux avec un niveau de mer élevé que dans le cas contraire. C'est là où je parle d'un risque accentué ou aggravé.
De vastes régions du continent africain connaîtront un réchauffement supérieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel d'ici les deux dernières décennies de ce siècle. En analysant de façon très brute, est-ce que c'est inquiétant?
C'est très inquiétant parce que ici, le GIEC parle d'un scénario moyen. Si vous parlez d'un scénario excessif, ça veut dire que si les émissions continuent avec l'allure actuelle, on est bien loin du scénario moyen. Et donc, 2 degrés centigrades serait peut-être 4 degrés centigrades si l'émission continue avec l'allure actuelle. Ceci d'une part, et d'autre part, les températures ne sont pas uniformément réparties sur le continent. Les régions les plus touchées par le réchauffement, aussi aujourd'hui que projetées dans l'avenir, c'est surtout les régions subtropicales. C'est les régions de l'Afrique du Nord et les régions de l'Afrique australe. Et par définition, ces régions, ils connaissent déjà des ressources en eau assez rares, ce qui devient de plus en plus rare. Donc, un réchauffement qui est combiné aussi avec des projections de sécheresse accentuées sur ces deux régions-là vont poser donc un problème d'eau énorme. Aujourd'hui, on vit déjà ces problèmes. Il y a déjà des restrictions d'une année à l'autre dans certaines de ces régions-là. Par exemple, ce que nous avons connu en Afrique australe il y a une année, où le lac, le barrage qui alimentait la ville de Pretoria se trouvait presque à sec. Au Maroc également, en Tunisie, en Algérie, on entend souvent des problèmes d'eau, d'accès à l'eau potable, et même des grandes villes qui commencent à souffrir de cette ressource vitale. Donc, si c'est ce cas aujourd'hui, avec une température avoisinant entre 1 et 1,2 degrés centigrades sur le continent africain, qu'est-ce que vous allez imaginer si la température arrive à 3 ou 4 degrés centigrades? Ce serait vraiment un assèchement généralisé dans ces régions-là.
Dans certaines régions du continent, il y a une sécheresse. On voit dans certaines parties du continent, comme au Sahel, on a connu cette année de fortes inondations. Comment lier tout ça au changement climatique?
Oui, exactement. C'est d'ailleurs ce que projette le GIEC avec le réchauffement global. Donc, il y a une modification de la circulation du système climatique qui fait que certaines régions vont recevoir des pluies diluviennes et d'autres régions vont recevoir un déficit énorme. Ceci est valable aussi bien pour l'Afrique que pour d'autres régions du monde. Donc, en ce qui concerne la population, elle va être affectée par les deux extrêmes de toutes les façons. Et si, par exemple, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe est projetée à avoir un déficit pluviométrique, ça ne veut pas dire aussi qu'ils n'auront jamais d'intensité de précipitation énorme parce que c'est lié. C'est ça le problème. Nous avons aussi noté, par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Est, qui continue à toujours avoir l'alternance irrégulière entre des fortes pluies, mais aussi des fortes sécheresses, que ça ne donne pas vraiment le temps à faire une politique d'adaptation à ces deux extrêmes. Si c'était un seul extrême, peut-être les politiques pourraient se focaliser et trouver des solutions. Mais là, vous avez deux extrêmes, chacun avec ses contraintes, chacun avec ses moyens de mettre les choses en face. Donc ici, on trouve, et surtout dans un continent où la pluie et le beau temps font la vie de la population et de l'économie et de la stabilité sociale. C'est tout à fait clair maintenant que le climat affecte la population sur plusieurs plans, parfois en même temps. La santé, avec les sécheresses, donc malnutrition, peu de rentabilité, plus de problèmes de ressources en eau, donc des conflits pour acquérir à ces ressources qui deviennent de plus en plus rares.
À ce sujet, on voit des prévisions tout de même très alarmantes par rapport à la situation de l'agriculture sur le continent, où on prévoit une baisse même, dans le pire cas des scénarios, une réduction des rendements moyens de 13% en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est tout de même inquiétant.
C'est des prévisions qui sont communiquées par nos collègues de la FAO qui corroborent avec les conclusions du GIEC. Et là, donc, c'est tout à fait clair que la sécheresse qui va dominer une grande partie du continent va être la cause principale. Mais également, lorsque vous avez des saisons très inondées avec des pluies torrentielles, ça aussi empêche une productivité agricole assez importante. Donc, de ce fait-là, effectivement, si vous prenez toutes les variétés de céréales qui sont produites en Afrique dans des sous-régions nord, sud, est, ouest, vous allez trouver que effectivement, il y a une chute de la productivité avec des scénarios de réchauffement projetés par le GIEC d'ici la fin du siècle.
Dernière question. Malgré tous ces handicaps, le rapport note que l'Afrique a fait de gros efforts pour faire avancer l'agenda climatique mondial. Mais finalement, que recommandez-vous aux pays africains pour un peu changer la donne sur le terrain?
Tout d'abord, pour la cause naturelle, enfin la cause sur le climat lui-même, c'est une affaire globale. S'il y a des sécheresses qui s'accentuent au niveau de l'Afrique ou bien des inondations, c'est parce que tout le système climatique global est déréglé. Donc, c'est une responsabilité internationale pour limiter les gaz à effet de serre afin que l'Afrique puisse bénéficier de moins de dérèglements que ce que nous constatons et ce que nous projetons à l'avenir. Ça, d'une part. D'autre part, maintenant, au niveau du continent, la question principale, c'est plutôt l'adaptation. Comment s'adapter à cette altération du système climatique au niveau de l'Afrique? Tout d'abord, il faut que la politique d'adaptation soit une politique intégrée au niveau des pays. Donc, chaque pays, là, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a bien sûr les services météo qui fournissent des prévisions et des projections. Il y a aussi les services de la sécurité alimentaire qui préparent les plans pour mitiguer si jamais il y a des sécheresses à l'avenir. Donc, il faut une politique intégrée entre tous ces acteurs pour faire face à d'éventuels extrêmes climatiques qui sont prévus ou qui sont projetés à l'avenir. Aujourd'hui, on constate que dans pas mal de pays africains, il n'y a pas cette intégration des politiques. Donc, ça, c'est un premier facteur très important à faire avancer rapidement. Le deuxième point, c'est l'Afrique, il a l'avantage de bénéficier d'énergies renouvelables énormes au niveau du continent. Donc, l'utilisation des énergies renouvelables, donc, d'abord, qui va en Afrique, d'abord, qui va augmenter la contribution de l'Afrique dans les efforts de mitigation, mais également, l'étude mentionnée dans ce rapport fait état du fait que l'utilisation des énergies renouvelables en Afrique va créer 2 à 4 fois la richesse que l'utilisation de l'énergie fossile. Donc là, il y a un créneau très important qui a commencé déjà à se développer au niveau de l'Afrique. Je connais par exemple en Afrique du Nord, l'énergie solaire commence à contribuer avec une fraction importante dans la ressource énergétique des pays, mais également dans d'autres pays, ça commence aussi à émerger pour utiliser des outils qui ne sont pas très très chers, mais qui apportent une solution à l'énergie. Et aussi, il augmente le taux d'emploi dans ces pays-là. Donc, il y a cet aspect où les Africains, à l'intérieur, donc au niveau de l'Union africaine, au niveau des organisations africaines, de promouvoir l'utilisation de cette énergie renouvelable et d'accélérer sa mise en œuvre dans tous les secteurs d'économie au niveau de l'Afrique, au niveau des transports, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie utilisée dans l'industrie, etc.
Ouad Badour, merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci beaucoup.